Du coup, vous tombez malade ou vous êtes en surpoids ou obèse. Et ça, c'est totalement scandaleux parce que la réalité, c'est que ce système que je viens de décrire fait que, factuellement, les gens n'ont pas beaucoup le choix de ce qu'ils vont pouvoir s'acheter à manger, encore moins quand ils ont un budget très limité. Et ça n'est pas possible de détourner l'attention de la responsabilité des Nestlé, Lactalis, Danone et compagnie, de la grande distribution qui se prétend les alliés mais qui ne joue pas du tout ce jeu-là, et des autorités publiques qui ne remplissent pas leur rôle pour défendre les droits fondamentaux et la santé publique. Et non seulement on prive les gens de leurs droits et on les amène vers des maladies liées à la malbouffe, mais en plus on les fait culpabiliser sous prétexte que ce serait leur responsabilité. Et donc cette petite musique pour finir, elle se retrouve dans des témoignages que je raconte dans les ministères où je vais évidemment régulièrement pour pousser pour des mesures fortes pour changer ce système, et où régulièrement on finit par me dire dans des rendez-vous, mais quand même, c'est avant tout une question d'éducation, non ? Eh bien, non, c'est scandaleux, et ensemble, on peut vraiment casser ces préjugés. Et ça, on peut le faire à l'échelle locale, on peut le faire dans les repas de famille, autant que moi, je vais le faire dans les médias, pour redire haut et fort, on vous voit faire une stratégie de diversion et de diviser pour mieux régner, chercher à nous parler de la responsabilité individuelle. Bien sûr que chacun a une part de responsabilité, bien sûr que l'éducation c'est un sujet important, mais ça ne masquera pas et ça ne cachera pas le fait que la première responsabilité ici, c'est ce système qui est verrouillé, et tant qu'on ne changera pas l'offre dans les supermarchés et avec des alternatives en dehors de ces supermarchés, eh bien non, ça n'est pas une question de responsabilité individuelle, c'est une question de responsabilité et de choix politique.
Le message est clair, arrêtez de culpabiliser. Si vous mangez mal, c'est parce que cela a été décidé politiquement. C'est parce qu'on laisse les industriels mettre du sucre partout, appauvrir les valeurs nutritives, le tout en sous-payant les agriculteurs et les agricultrices pour le profit de quelques actionnaires qui, eux, ne mangeront pas de ce pain-là. On devrait obliger les PDG et actionnaires d'Auchan, Leclerc, Carrefour à manger tous les produits vendus dans leur grande surface. Vous verrez qu'ils feraient un peu plus le tri entre malbouffe et bonne bouffe. Alors, même si le système paraît verrouillé, nous pouvons agir. Pour cela, il va falloir qu'on mette à jour les stratégies des personnes et des organisations qui veulent nous faire croire qu'on n'a pas le choix.
En face, il y a une grosse idéologie quand même néolibérale et aussi une grosse idéologie un peu populiste qui cherche à simplifier à outrance, mais pour nous faire croire des choses qui sont fausses. Donc je reviens sur juste deux mensonges concernant l'agriculture et je parle des portes tournantes juste après. Le premier mensonge, et je le dis parce que vous allez l'entendre, et donc je veux réarmer de façon non violente aussi les personnes qui nous écoutent pour pouvoir entendre en fait quand on raconte des choses qui ne vont pas dans le bon sens. On entend beaucoup ce discours, vous savez, sur la souveraineté alimentaire. Ah là là, il y a quand même la guerre aux portes de l'Europe. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, on a eu des problèmes d'approvisionnement. Donc quand même, la souveraineté alimentaire, c'est hyper important. Et donc, ça veut dire, nous disent-ils, ça veut dire que surtout, il ne faut pas de normes environnementales, il faut produire plus à coup de pesticides, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir nourrir tout le monde et qu'on va pouvoir être autosuffisant, etc. Ça, typiquement, c'est comment une minorité cherche à imposer un discours dominant. Alors, aussi en se servant des médias qui, aujourd'hui, sont de moins en moins indépendants et tout. Mais c'est pas pour ça que ce discours dominant, on est obligé de l'accepter. Et donc, on a une guerre culturelle un peu à mener. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de savoir démanteler ces mensonges. C'est un double mensonge parce que, un, la vraie définition de la souveraineté alimentaire, et c'est important ça de l'avoir en tête parce que c'est ce qu'on veut défendre. En fait, la vraie définition de la souveraineté alimentaire, c'est assez beau. C'est une définition des Nations Unies, et c'est le droit des peuples à définir ce qu'ils veulent manger et à comment ils veulent le produire. C'est génial, parce que c'est vraiment de la démocratie alimentaire. C'est comment on choisit. Or aujourd'hui, comme je l'ai dit, on ne nous laisse pas le choix. Donc premier mensonge, ce n'est pas la bonne définition. Ensuite, si cette minorité-là qui veut nous imposer une agriculture toujours plus intensive, pesticidée de façon chimique, et toxique, parle d'autonomie, parce qu'en fait c'est ça qu'ils invoquent, c'est une sorte d'autonomie alimentaire. C'est faux de penser qu'il faut plus de pesticides et qu'il faut rester dans le modèle agricole dans lequel on est aujourd'hui. Pourquoi c'est faux? D'abord parce qu'on importe la majorité des pesticides de synthèse et des engrais de synthèse qu'on utilise, et ça on nous le dit jamais. Donc à quel moment on est autonome si on dépend de ces importations? Et ensuite parce que si on regarde un tout petit peu plus loin que le bout de notre nez, en fait, même regarder la question de contaminer les sols, les eaux. On voit avec le scandale, même le scandale des eaux soi-disant minérales, que les eaux les plus profondes censées être pures, même elles sont contaminées par des résidus de pesticides et des contaminants comme les PFAS, ces polluants éternels. En fait, tout ça n'a pas de sens parce qu'on est tellement en train de contaminer. Ce que ça veut dire, c'est que même si on regarde sur une question productiviste, on est en train de détruire notre outil de production agricole de demain. Donc ça n'a aucun sens. Donc ce sont des gens qui cherchent en fait à maintenir un intérêt court-termiste qui ne touche qu'eux. Et c'est qui ? C'est là que je reviens sur les agriculteurs, c'est qui ? Et du coup, regardons qu'en fait, il y a des groupes différents avec des intérêts différents. En gros, si je simplifie, disons qu'il y a trois grands groupes. Il peut y avoir le groupe de ceux qui font déjà du bio, de l'agroécologie. Je rappelle qu'il est démontré, et les références sont encore une fois évidemment dans le livre, il est déjà démontré qu'on peut nourrir la planète avec de l'agroécologie. Encore faudrait-il se mettre autour de la table pour une vraie transition en accompagnant les agriculteurs et agricultrices. Mais donc, il y en a qui font déjà les choses de cette façon-là. Alors, ils ne sont pas aidés. Du coup, malheureusement, il y en a aussi qui arrêtent de le faire parce qu'ils ne sont pas subventionnés et pas aidés. Mais il n'empêche que ça existe déjà. Il y a la minorité qui nous bloque, qui veut continuer à nous imposer ce système, à ne surtout pas en sortir parce qu'ils en profitent. C'est qui ? Ben c'est très simple, c'est une question d'argent, comme toujours. Donc vous avez peut-être entendu parler de la PAC, c'est du coup le programme agricole commun, et c'est hyper important que l'Union européenne effectivement ait des politiques normalement de protection et de transition, sauf que cette politique, pour le moment, ne va pas dans le bon sens, puisqu'elle donne des subventions qui sont basées sur les surfaces essentiellement cultivés. Donc pas du tout sur des critères de durabilité, de bien rémunérer les agriculteurs, c'est pas ça. C'est sur, en gros, le côté intensif et surface cultivée. Résultat, cette PAC, c'est plus de 53 milliards d'euros par an pour tout le programme agricole en Europe. En France, c'est 9 milliards d'euros par an. On est le pays qui reçoit le plus. Mais sur ces 9 milliards d'euros par an, qui en profite ? Eh bien, vous avez 20% des agriculteurs et agricultrices en France qui mettent la main sur 50% du gâteau. Voilà. Ça veut dire que ces 20%-là, qui sont notamment ceux qui défendent une agriculture pesticidée, parce qu'en fait, pourquoi ? Parce que ce sont notamment ceux qui profitent de ce système-là. Et rappelons que, par exemple, à la tête de la FNSEA, qui est un syndicat très important, qui, du coup, soutient plutôt ce modèle agricole intensif, pourquoi ? Rappelons que son président, c'est Arnaud Rousseau. Et Arnaud Rousseau, c'est pas un petit paysan. Hein. Arnaud Rousseau, c'est un PDG d'une multinationale d'agroalimentaire. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il défend ? Il défend, en fait, une agriculture d'exportation. Il défend une agriculture intensive. Il défend une agriculture avec des pesticides. Et c'est eux qui bloquent. Mais tant qu'on nous fait croire que c'est pour la souveraineté alimentaire au sens noble, tant qu'on nous fait croire que c'est la majorité des agriculteurs et agricultrices, eh ben en fait ça infuse, et beaucoup de gens, et c'est normal, qui nous écoutent, le croient aussi. Mais quand on commence à se dire et à faire ce qu'on est en train de faire, toi et moi là, de dire, ben en fait tu sais quoi, on prend le micro, on explique, on redonne de l'information aux gens, parce que l'information c'est le pouvoir, pour justement comprendre qu'on nous impose ce modèle alors qu'il n'y a pas de raison, et que oui, il existe des alternatives, alors on reprend le pouvoir. Surtout que la troisième catégorie d'agriculteurs et agricultrices, qui est au milieu là, la majorité, mais en fait on leur a imposé aussi le système, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a intensifié l'agriculture, il y a eu un remembrement, il y a eu plein d'incitations aussi progressivement à dire, bah attends, il va falloir agrandir les surfaces, du coup il faut s'équiper, du coup endettez-vous pour agrandir vos exploitations, etc. Et en fait, on se retrouve avec plein de nos agriculteurs et agricultrices à qui on a imposé ce modèle, on ne leur a jamais laissé entendre qu'il pouvait exister autre chose, ils sont endettés jusqu'au cou. D'ailleurs, malheureusement, c'est une des professions qui est la plus exposée au taux de suicide, parce qu'on met aussi les gens dans des situations impossibles, alors que quand on les interroge, les sondages sont extrêmement clairs. Bien sûr que ce sont les premières et les premiers à vouloir sortir d'un système toxique qui est dangereux pour la santé, et ce sont les premières victimes pour la santé, sur l'usage des pesticides de synthèse, et qui contaminent les sols, alors qu'on pourrait faire autrement. Encore faudrait-il pouvoir accompagner ces personnes, les mettre autour de la table, déjà les écouter sur comment on pourrait faire la transition et les accompagner pour rendre cette transition possible. Mais qui dit transition d'y sortir du système actuel, et c'est la petite poignée qui détient le pouvoir qui nous en empêche. Mais ça, c'est pareil, ça n'est pas une fatalité, parce qu'on est quand même nombreux, nombreuses, et puis tant qu'on est encore dans un système un peu démocratique, il y a des votes à la clé, et on a encore la possibilité, du coup, de peser en tant que citoyenne, citoyen, dans un bon rapport de force, non violent, mais déterminé, et puis de mettre aussi des gens au pouvoir qui ne prendront pas ce genre de décision, mais qui seront enfin en capacité de nous acheminer vers cette transition. En tout cas, c'est ce qu'il faut préparer.
J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, en vrai, qui parle fort et qui a des pecs, qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées, et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assis, et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer, et qui s'empêchent de pleurer. Mais moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Non, je me sens plus tranquille quand il y a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que j'aime les filles aussi. Et ouais, j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue, je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. Je sais que pour eux c'est compliqué, et ouais, cette foutue virilité qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai, parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne, mais les filles elles le saignent aussi. Désolée les gars, mais moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand il y a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
Il y a quelque chose de très marquant chez les personnalités militantes comme Karine Jacquemart, c'est cet optimisme ou plutôt peut-être cet espoir qu'on va y arriver. On peut faire bouger les choses. Ok, il y a des reculs, c'est pas facile, mais il y a des avancées et il faut aussi les voir et continuer d'y croire.
Pour moi, il est hors de question, quand vraiment on comprend comment ça marche, quand vraiment on voit que c'est quelques personnes qui nous imposent ça, et qui profitent, parce qu'on les entend hein, parfois dire, on les entend dire « Ah, ça passe, ah, t'as vu, c'est passé », qui profitent du fait que quand ils tentent des trucs, même incroyablement contraires à l'intérêt général, ça passe. Moi, en tout cas, j'ai un appel dans l'estomac qui me fait me mettre debout, me mettre devant, sur leur route, et dire « Attendez, on va pas vous laisser faire sans rien dire, quoi ». Première chose. Deuxième chose, comme je le disais au début, tous les combats paraissent impossibles au début. Et c'est fastidieux, c'est fatigant, donc attention à la fatigue militante, je le dis aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut militer à tout prix, c'est hyper important de prendre soin les unes des autres. Moi, j'ai plus de 20 ans de militantisme là dans les pattes. Je ne te cache pas que oui, ça me fatigue, et oui, je trouve ça révoltant de devoir se battre pour des choses qui sont évidentes, et qui sont essentielles, et qui sont des droits. Maintenant, puisque c'est comme ça, puisque eux cherchent à nous imposer ça, en tout cas, la moindre des choses, c'est de ne pas les laisser faire facilement et de renverser la vapeur. Et je suis sûre qu'on finira par y arriver. D'abord, on a des victoires, on peut revenir dessus, il y a quelques victoires, mais surtout parce que ça se voit. Et c'est pas parce qu'on a raison, je suis pas en train de dire c'est parce qu'on a raison qu'on va y arriver, ça ne marche pas. On est dans un rapport de force, malheureusement, c'est la réalité. Mais encore une fois, le contre-pouvoir citoyen, citoyenne, et surtout le fait de mettre un coup de projecteur, ça peut marcher. Parce que c'est quoi leur talon d'Achille ? Leur talon d'Achille, c'est le risque réputationnel et c'est d'avoir à rendre des comptes. C'est l'exemple que je donnais avec Nestlé, mais qui vaut aussi pour des responsables politiques. Je te donne un exemple avec la loi du plomb. Bon, malheureusement, elle a été votée. Ok, certes, mais quand elle a été votée, on a fait tellement de bruit avec les autres associations et même avec une mobilisation sur les réseaux sociaux. Eh bien, ça a obligé quoi ? Ça a obligé, d'abord, il y a plusieurs députés qui ont changé de vote, qui allaient voter pour et qui ont voté contre. Alors, on n'a pas eu assez de temps pour faire changer la majorité, mais ça a quand même changé le rapport de force et certains votes. Et ensuite, on a obligé des gens comme Gabriel Attal ou Agnès Pannier-Runacher qui ont voté pour, mais qui ont reçu tellement de pression par les réseaux sociaux et sur les médias qu'en fait, ils se sont sentis obligés de rendre des comptes et de s'expliquer publiquement sur les réseaux sociaux sur pourquoi ils avaient voté ça. Ça a l'air de rien, moi je vous dis que ça, c'est hyper important. Parce que c'est le moment où on arrive à être suffisamment malin et puissant pour envoyer le message de dire vous allez, c'est fini de vous laisser faire et que ça passe incognito, quoi, pas vu, pas pris, y en a marre, et on va vous obliger maintenant à rendre des comptes et à devoir vous expliquer face aux électeurs, face aux citoyens, pourquoi vous votez ça, pourquoi vous faites autant d'alliances là avec l'extrême droite sur les votes que vous êtes en train de faire, hein, sur la loi du plomb et d'autres lois inacceptables. Il y a des alliances là avec l'extrême droite qu'on n'aurait pas vues il y a quelques années, qui sont intolérables, et je suis persuadée qu'en mettant plus de coups de projecteur et en obligeant ces gens à rendre des comptes devant les citoyens et les citoyennes, alors on peut faire changer les choses.
Alors c'est vrai, les lignes bougent, notamment, comme le dit très justement Karine Jacquemart, grâce à des multimobilisations. Quand elle dit « on s'est organisé », eh ben c'est Foodwatch et d'autres organisations et des individus sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est cette union, cette coalition de groupes de pression qui est essentielle pour faire front.
Tout est lié et il faut vraiment être intelligent en fait, en faisant des coalitions et en faisant des synergies, en ramant dans le même sens, en montrant qu'on fait en front uni. Alors sur l'agriculture et l'alimentation, on le fait beaucoup. Il y a notamment un collectif qui s'appelle le collectif Nourrir, qui réunit plus de 50 organisations, que ce soit des organisations paysannes, associations de consommateurs, associations de protection de l'environnement, associations qui luttent contre la précarité alimentaire. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de montrer à chaque fois qu'en fait, ce sont les mêmes facettes d'un même système et d'une même solution. Quand on dit, ça veut dire quoi concrètement œuvrer pour le droit à une alimentation saine, choisie, durable, qui rémunère bien et en même temps sans pesticides, on a tous les pans en fait de la solution qu'on met ensemble et on lutte ensemble. Et d'ailleurs sur la loi du plomb, je voudrais pas rester sur l'idée que c'est un échec total. Ça n'est pas un échec total. Elle a certes été votée, mais derrière cette coalition, elle s'est encore élargie. Avec des mouvements qui sont là aussi pour défendre la démocratie, avec des scientifiques, avec des malades qui sont tombés malades de ces pesticides. Enfin, quand on voit aujourd'hui que même des scientifiques se mettent à militer parce qu'ils sont extrêmement inquiets de voir que les études scientifiques ne sont pas suffisamment prises en compte dans les politiques, quand on voit que des malades, par exemple avec l'association Cancer Colère qui s'est montée, montent aussi au créneau, on élargit les coalitions. Et ça a quand même généré 2 millions de signatures, plus de 2 millions de signatures sur la pétition lancée par une étudiante. Ça a généré aussi le fait que le Conseil constitutionnel, il n'a pas validé la reconduction et la réautorisation des néonicotides, acétamipride et autres. Alors certes, il a laissé passer une facilitation sur les méga-bassines et sur l'élevage intensif, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Et cette coalition, elle va continuer à se battre pour que cette loi soit annulée. Voilà, les combats ne se gagnent pas en une journée, ça c'est vrai, mais le chemin qui est parcouru, les sillons qui sont tracés quand on a ce genre de mobilisation, ça ne passe pas inaperçu. Moi je peux vous dire, les pétitions, on me demande souvent, est-ce que ça sert à quelque chose ? Bien sûr ça sert à quelque chose, au même titre que tout signe qui va indiquer à ces entreprises et aux décideurs politiques qu'en fait on est nombreuses et nombreux à s'en soucier. Ça ne passe pas, pas vu, pas pris, on voit et on va être en résistance. Et encore une fois, toutes les victoires qu'on a eues, tous les combats aussi qu'on a eus pour des acquis sociaux, enfin que ce soit pour le droit de vote des femmes, par exemple, mais que ce soit pour les congés payés à l'époque, que sais-je, ou si on regarde plus loin, la fin de l'apartheid, tout ça, historiquement, ça paraissait impossible au début. Mais là, on est en train de faire un pied à pied, et tu as raison, merci de le souligner, ces coalitions entre associations, mais aussi pour élargir la mobilisation des citoyens, des citoyennes, y compris vous qui nous écoutez, qui vous dites « moi je me reconnais pas quand on dit les mots militants ». En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire défendre nos droits ensemble. Et donc, il y a plein de façons de le faire, et plus on est nombreuses et nombreux à signifier, à manifester par plein de façons différentes qu'on est là pour justement ne pas laisser faire et montrer qu'il y a d'autres façons de vivre ensemble, de faire ensemble et de mettre de la démocratie alimentaire, faisons-le.
Du côté des marges, de la résistance, il y a une chose qui est très présente, c'est la créativité. Il y a mille et une expérimentations qui existent, dont celle de la sécurité sociale, de l'alimentation, et toutes, ce sont autant de bonnes raisons de continuer d'essayer partout, car oui, il faut s'emparer du sujet de notre alimentation à toutes les échelles.
Effectivement, il faut dénoncer ceux qui verrouillent, mais d'autre part, on peut aussi prendre l'espace là où on en a pour faire des choses à l'échelle citoyenne, quoi, et à l'échelle plus locale, qui est une échelle aussi plus accessible. Donc en fait, il y a plein d'alternatives au système actuel. Il y a plein d'initiatives citoyennes qui se développent partout en France et qui sont hyper intéressantes. La sécurité sociale de l'alimentation en est une, je vais la décrire, mais on a aussi des épiceries sociales et solidaires, on a aussi l'association VRAC, par exemple, qui organise des achats groupés dans les quartiers populaires avec les personnes directement concernées dans les quartiers populaires. Ça leur permet d'acheter des produits, par exemple, bio et sains pour la santé, auxquels ils n'auraient pas accès sinon. Bien évidemment, il y a les AMAP pour ceux qui peuvent. Donc ça, c'est quand on achète, on s'engage à prendre un panier de fruits et légumes auprès d'un producteur local. Et puis, en fonction de sa production, voilà, il met ce qu'il a. Donc, il y a plein de façons, en fait, de se réapproprier son accès à l'alimentation, et y compris ses expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation. Alors, de quoi on parle? Et on parle, en fait, de principes de base qui sont la démocratie alimentaire et le conventionnement et la solidarité, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un collectif de citoyens et citoyennes plutôt qui représente la diversité sociale et aussi la diversité économique, hein, des familles qui ont plus ou moins de moyens, et qui contribue à une caisse commune. Donc on met au pot commun de l'argent. Et en fonction de ses moyens, on va mettre plus ou moins. Donc si je prends l'exemple de la caisse de Montpellier, dont on parle souvent parce qu'elle est vraiment suivie et elle a quelques années maintenant, donc on a un peu de recul, ben eux, par exemple, ils donnent tous les mois à chaque famille qui adhère, ils donnent l'équivalent de 100 euros. En plus, ils ont fait une monnaie locale, donc c'est 100 monas. Mais en fonction de ses moyens, une famille va donner moins de 100 euros ou plus de 100 euros. Voyez. Et donc l'idée, c'est qu'au final, il y a un truc de répartition et de solidarité sur le fait que tout le monde a 100 monas. Mais derrière, il y a aussi le côté démocratique hyper important de choisir où on peut utiliser cet argent. C'est ce qu'on appelle le conventionnement, c'est-à-dire qui on va conventionner, quel producteur, quel supermarché, quel marché, enfin voilà, auprès de qui on estime qu'on peut utiliser cet argent pour aller s'acheter des produits alimentaires. Et c'est défini de façon vraiment démocratique. Il n'y a pas quelqu'un ou des autorités publiques ou je ne sais pas qui viennent décider à la place des gens. C'est les gens ensemble qui décident. Et en fait, c'est formidable parce que, d'une part, quand on laisse les gens libres, encore une fois, les gens ne sont pas idiots, hein. Donc, en fait, ce qu'ils racontent dans leur témoignage, c'est que ça leur permet de conventionner des endroits, par exemple des coopératives, des producteurs bio, où ils ne seraient jamais allés sans ça. Donc ça leur donne accès à une alimentation de qualité à laquelle ils n'auraient pas eu accès sinon. Et puis ça va bien au-delà de ça. Ça recrée du lien social. Les gens apprennent à se découvrir, à se redécouvrir, à créer du lien social, à faire des choses ensemble et à redonner aussi de la dignité. Enfin, ils sont pas rares, les témoignages, et moi à chaque fois ça me touche beaucoup parce que c'est tellement pour le coup réel, on n'est pas dans la théorie. Témoignages de personnes qui disent que au début elles sont venues un peu, elles ont entendu parler, elles sont venues un peu à reculons dans ce groupe en se disant « bon, de toute façon ça va être comme d'habitude ». on va pas écouter ce qu'on a à dire, quoi. Mais bon, allons voir de plus près. Et qui, en fait, ils sont restés pendant plusieurs années et ils sont toujours, parce qu'elles témoignent du fait de dire, ben, en fait, je me suis rendu compte que ma voix a été prise en compte. Mais c'est énorme. Et dans une société où, en effet, malheureusement, cette colère dont on parlait du début, elle dérive d'un certain mépris du fait que la voix des citoyens et des citoyennes n'est pas écoutée, et que même, encore pire, les fois où on a fait croire qu'on allait les écouter avec les cahiers de doléances, ou par exemple la Convention citoyenne pour le climat, finalement, ça a été une grande claque pour tout le monde, que au plus haut niveau de l'État, n'est-ce pas, il a été en gros décidé de dire « bon, ben, finalement, non, on s'en fout, on va pas les prendre en compte ». Là, on est à hauteur humaine avec du coup des gens qui recréent ces expérimentations à échelle locale. Moi, je trouve ça formidable et ce sont du coup des exemples incroyablement inspirants et qui, moi, me redonnent beaucoup d'espoir sur, bien sûr, qu'on a plus de pouvoir que ce qu'on veut nous faire croire et bien sûr que quand on se met ensemble, il y a une créativité, une solidarité, des valeurs qui rejaillissent, qui sont nos valeurs à nous et pas celles qu'on cherche à nous imposer.
Purée, le temps file. Alors vite, un détour par les poils, mais on retrouvera Karine Jacquemart pour le mot de la fin.
Ouais, moi mes poils, c'est pas trop un sujet. Déjà, j'ai 3 poils sur le caillou, donc ça fait que c'est assez facile à régler, quoi. Un élastique et hop, on est coiffé. Et voilà. Et sinon, non, c'est pas un sujet qui soit long, pas long. Franchement, voilà, ça me préoccupe pas beaucoup. Donc, je les laisse pas pousser à l'infini, mais j'en fais pas non plus une espèce de contrainte sociale à laquelle je me plierai quotidiennement, quoi.
On se quitte, mais comme promis, avec un dernier mot de Karine Jacquemart, car vous écoutez peut-être cette émission avant les élections municipales de mars. Et voter, c'est aussi un moyen de remettre une cuillère de démocratie dans l'assiette.
Et après, oui, il y a les élections. On a notre pouvoir aussi citoyen, citoyenne au niveau des élections. Alors je sais qu'on est aussi... Il y a beaucoup de personnes qui se disent « à quoi ça sert ?» Bah écoutez, pour toutes les populations qui n'ont pas ce droit, qui ne l'ont jamais eu ou qui sont en voie de le perdre, parce qu'on a quand même un recul démocratique très fort, j'ai envie de vous dire, on n'a pas grand-chose à perdre à essayer. Si on se met à faire des listes avec des gens un peu plus dans la diversité, qui représentent un peu plus les intérêts de tout le monde, si on se met à prendre les espaces de pouvoir aussi, là où on peut prendre les décisions, c'est-à-dire là où on peut être élu, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que reprendre le pouvoir, c'est partout, tout le temps.